Excellent. Ce matin, on continue notre série qui s'intitule « Jésus et moi ». Et le cœur de cette série-là, c'est vraiment cette idée-là d'avoir une relation avec Jésus. Le titre de mon message, c'est « Tous les jours avec Jésus ». Mais si vous voulez comprendre où est-ce que je m'enligne avec mes skis, où est-ce que je me dirige, c'est cette idée-là de ma relation avec Dieu en dehors du temps du dimanche matin. Parce que ici, on est ensemble, c'est super, mais la majorité de notre vie chrétienne ne se passe pas à l'église, n'est-ce pas? Elle se passe à tous les endroits où nous nous trouvons. Et on va développer cette idée-là ensemble aujourd'hui. Et je veux commencer par une des promesses. On a dit tantôt, hein, on a chanté très fort et on a chanté en répétition, « Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi ». Vous avez chanté ça? Oui, vous en rappelez, hein? Bien, j'aimerais vous partager une promesse qui est chère et qui va en lien avec ce message de ce matin, qui se retrouve dans Matthieu 28, et ça parle de l'esprit missionnaire qui nous est chacun. On a tous cet appel missionnaire à parler du Seigneur et continuer de faire connaître le beau nom du Seigneur, et vient la promesse. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, vous prenez cette promesse-là puis tu dis, Jésus est en train de promettre qu'il va être avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse qui est précieuse parce que nous ne sommes jamais seuls. Mais peut-être que vous avez déjà expérimenté que vous aviez l'impression d'être seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être, par exemple, soit à l'église ou dans un autre lieu, puis finalement, on parle, on jase, puis finalement, on trouve quelqu'un, puis on dit « Hey, je savais pas que tu étais là! Hey, je t'avais pas vu! Hey, sinon, je t'aurais souhaité bonne fête! Hey, bonne fête, c'est-tu la fête à quelqu'un aujourd'hui? Personne? Bon, ben, joyeux non-anniversaire à tout le monde! » C'est bon, hein? On a de quoi célébrer encore aujourd'hui. Mais il y a cette idée-là que même si on est avec plein de monde, il y a des fois que la personne est présente, mais on n'en était pas conscient. Et là, vous me voyez venir, hein? Parfois, on ne comprend pas bien l'idée de l'omniprésence de Dieu. Dieu qui est présent partout. Dieu qui nous accompagne à chaque moment parce que parfois, on a l'impression qu'il n'est pas là. J'aimerais vous suggérer que Dieu est beaucoup plus présent qu'on peut l'imaginer. Dieu est beaucoup plus présent qu'on peut même le sentir. Et je pense que la question à se poser n'est pas « Seigneur, es-tu là? » Mais la question à se poser est beaucoup plus « Seigneur, j'aimerais te voir parce que je sais que tu es là. » Est-ce que vous comprenez un peu la distinction entre les deux? Et à quelque part, si on est en train de croire que Dieu est omniprésent, que non seulement ça avec ses disciples, il est avec lui à tous les jours, j'aimerais réfléchir au fait que, eh bien, pourquoi s'il est là tout le temps, pourquoi on s'adresse à lui juste le dimanche entre 9h30 et 11h? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire que si Dieu est tous les jours avec nous, bien, pourquoi on ne serait pas tous les jours avec lui? Tu sais, ça va des deux bords. C'est-à-dire que Dieu va demeurer là qu'on le sente ou qu'on le voit ou à la limite qu'on le désire ou qu'on ne le désire pas. Mais maintenant, nous, c'est dire, Seigneur, je veux te voir à l'endroit, parce que je sais que tu es là, je sais que tu es présent. Et il y a plusieurs personnes ici, vous avez vécu des choses épouvantables dans votre vie. Et dans votre cœur, c'est vraiment, Seigneur, tu n'étais pas là! J'aimerais vous encourager, puis peut-être avec l'aide d'une personne de confiance, de peut-être poser la question, tu étais où dans ce moment-là? Puis peut-être de réinterpréter le fait de penser que Dieu, parfois, il est absent, puis parfois, il est présent. Parfois, il est absent, parfois, il est présent. Il est là, il n'est pas là. Je ne suis pas là, je suis là. Tu me vois, tu ne me vois plus. Vous la sentiez venir, hein? Les grands fans d'Astérix et Obélix l'ont senti tout de suite. Parce qu'on peut être dans la même pièce et Dieu peut être pleinement présent sans qu'on sache qu'il est là parce que notre cœur est éloigné de lui. Alors, il y a une invitation dans cette promesse-là. La promesse, ce n'est pas juste dire, « OK, moi, je vais être là, comme si le Seigneur disait, moi, je vais être là, puis c'est tout. » Non, il y a cette invitation-là à être près de lui. Il y a cette invitation-là à demeurer en lui. Il y a cette invitation à passer du temps avec lui. Et je lisais notre surintendant général qui disait la chose suivante, qui est une invitation à passer du temps avec notre Dieu. Il disait, si nous désirons vivre comme Jésus vivait, il nous est nécessaire de centrer nos vies sur ce qui était au centre de la sienne. Malgré le désordre et la complexité de la vie, notre plus grand besoin est de partager une relation intime avec notre Seigneur. Lisez chaque jour, priez chaque jour, ne sont pas des corvées religieuses, ce sont nos vies en tant que telles. La lecture quotidienne de la parole de Dieu nous donne une direction à suivre, que ce soit dans le domaine général ou particulier de nos vies. La prière quotidienne nous donne la force par l'Esprit de vivre une vie significative, de nous attendre à ce que le royaume de Dieu se manifeste dans notre contexte quotidien, que ce soit de manière banale, ordinaire ou extraordinaire. Il y a une invitation à ce que l'idée de la prière et de la lecture, ça ne soit pas juste une tâche à cocher, mais que ce soit nos vies. Que ce soit notre vie près du Seigneur, dans sa présence. Et d'ailleurs, une des choses qui m'étonne dans l'Évangile, c'est de considérer que si Jésus était le Fils de Dieu, s'il connaissait, il était capable de même voir dans le cœur des gens. Là, tu sais, c'était pas. Et il avait besoin, lui aussi, de passer du temps dans la présence de son Père. Il avait besoin, même le matin tôt, il se retirait, allait dans un lieu désert pour passer du temps avec son Père. Et on le voit, on l'a le texte dans Marc 1. Ça veut dire, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Si Jésus en avait besoin. Et là, peut-être vous dites, oui, mais là, pasteur, là, moi, là, je ne suis pas matinal. Alors, je ne ferai pas la doctrine du matin ce matin, là. Ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut passer du temps avec le Seigneur. Et le matin est un excellent temps. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas d'autres distractions. Parce qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent. Maintenant, vous dites, oui, mais là, tu sais, Jésus, lui, il n'était pas distrait. Mauvaise réponse! Puis là, je ne parle pas de distraction personnelle parce qu'il y avait un trouble, un TDAH, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que Jésus voulait passer du temps, mais parfois, il y avait des empêchements, il y avait des imprévus. Et dans Matthieu 14, on voit que Jésus reçoit la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Puis voici ce que le texte va dire. Il va dire, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Il veut aller d'un endroit désert, puis on sait que quand il est dans un endroit désert, c'est pour être justement avoir la paix, pour être connecté à Dieu, à son Père. Mais l'ayant appris, la foule a sorti des villes et le suivit à pied. Le gars est dans une barque, puis les gens suivent sur les rivages pour pas qu'il sauve. Quand même, hein? Alors, quand Jésus sortit de la barque, il vit la grande foule, il fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Fait le ministère, guérit, encourage, probablement prêche, on ne connaît pas tous les détails. Mais au verset 22 et 23, quelques versets plus loin, ça veut dire aussitôt après d'avoir fait ces choses-là, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. Et il y a cette idée-là qu'il y a comme une interruption. Il y a comme un genre de... Il y a une foule qui me court après sur le bord de l'eau pour que même si je t'embarque, ils me suivent. Et finalement, accomplit ce qu'il a besoin d'accomplir, mais il va être intentionnel. Il va être intentionnel en disant à ses disciples, « Là... » Les autres, je ne les ai pas obligés, mais toi, je t'oblige. Rentre dans la barque, puis vas-y. Je veux passer du temps seul. Et il renvoie la foule pour s'assurer qu'il puisse avoir un temps avec son Père. Et le point, justement, je ne veux pas faire la doctrine du matin en obligeant tout le monde à se réveiller à 5 heures le matin pour lire 3 chapitres, puis ici, puis ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des empêchements qu'on peut avoir, mais on voit que Jésus est intentionnel de dire aux gens qui l'entouraient, regarde, j'ai besoin d'un temps. J'ai besoin de mettre à l'écart un temps pour être chaque jour avec mon Père. Si Jésus en avait besoin, imagine mon besoin d'être connecté à Dieu. Imagine ton besoin d'être connecté à Dieu. Imagine le besoin de ne pas vivre comme si Jésus était présent uniquement le dimanche entre 9h30 puis 11h, puis 11h10 si ça dure trop longtemps. Comprenez? Vous savez, qu'est-ce que j'entends par prendre du temps avec Jésus ou avec Dieu chaque jour? Ah, on parle de la lecture de la parole, on en a parlé, temps de prière, des temps pour se mettre à l'écoute de Dieu, temps de réflexion, temps de contemplation, d'émerveillement, temps de reconnaissance, hein, remercier le Seigneur, temps de repentance, de confession, tout ça fait partie de, comme disait le surintendant dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, bien, c'est notre vie, ça. Ça, c'est notre vie de passer du temps avec le Seigneur parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'adhérer et de signer en bas d'un document, c'est de vivre une relation avec Jésus. On entend un amen à ça? Oui? Amen à ça. Et on fait souvent l'analogie que si une personne prenait un repas par semaine, ça se pourrait qu'elle soit en carence de vitamines. Bien, c'est un peu la même chose. Si on voit la réunion du dimanche comme étant le seul moment de connecter avec Dieu, ça va être effectivement difficile de vivre cette relation-là avec Jésus. S'il est présent à chaque jour, comment est-ce que je peux le voir 2 heures par semaine s'il m'a promis qu'il était là à tous les jours jusqu'à la fin? Comprenez un peu le lien que je suis en train de faire. Et je ne suis pas en train d'accuser personne, je suis juste en train de partager mon cœur pour que justement cette relation-là avec Dieu, on puisse voir notre réunion du dimanche peut-être différemment. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disent « Hey, ma réunion du dimanche, là, hey, ça me permet de toffer ma semaine. Je vais survivre à ma semaine parce que je suis venu le dimanche. » Puis dans mon cœur, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis « Bon, ben, il y a quelque chose d'encourageant, il y a quelque chose qui donne la vie, mais en même temps, je trouve ça triste parce que je me dis « Si ce temps-là d'une heure et demie te permet de survivre, ben, il y a d'autres moments que tu pourrais prendre avec le Seigneur aussi qui pourraient te faire du bien. » Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de partager, parce que pour moi, la réunion du dimanche matin, c'est une continuité, une célébration de ce qui s'est passé dans la semaine. Je le répète, pour moi, la réunion du dimanche, c'est une continuité, c'est une célébration de ce qui s'est passé déjà dans la semaine. Parce que si on est tous les jours avec Jésus, ben, on a une journée spéciale où est-ce que le Jésus et moi, parce qu'on a notre relation personnelle avec le Seigneur, Jésus et moi, se transforme en Jésus et nous. On parle du corps de Christ. Le Jésus et moi qui est là pendant la semaine devient le Jésus et nous. Et ce Jésus et nous, il est important. Il est important pourquoi? Parce que s'approcher de Dieu, ça ne se fait pas juste tout seul perso, ça se fait aussi de façon communautaire, de façon plurielle, en communion les uns les autres. Et c'est pour ça que c'est important de s'impliquer, de servir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de connecter les uns les autres, de chanter d'une seule voix comme on le fait ce matin. Et ça devient une célébration de notre temps et de notre temps avec Jésus. Je vous dis, moi, j'ai pris un temps avec Jésus hier en arrachant les pissenlits dans mon entrée. C'est simple, là. J'ai senti une force surnaturelle parce que je n'avais pas de motivation. Non, non. Non, non, mais en réflexion, en prière, et juste un temps comme ça. Si vous manquez de mauvaises herbes chez vous, vous pouvez m'appeler, je vais vous donner mon adresse. C'était un excellent temps. Non? Le gars essaye de vendre les temps en arrachant un pissenlit. Non, non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le Jésus et moi devient Jésus et nous. Et parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du dimanche matin le Jésus et moi. Tout est à propos de moi. Tout est à propos de ce que je vais recevoir, de ce que les autres vont accomplir comme musique pour moi, pour que je puisse être béni, encouragé. Alors que le temps du dimanche est beaucoup plus un Jésus et nous. Qu'ensemble, d'une même voix, on adore, on célèbre la gloire du Seigneur, qu'ensemble, on puisse puiser ensemble dans cet évangile si précieux que Dieu nous a amené. Parce que si tout le dimanche est à propos de Jésus et moi, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on substitue notre relation personnelle avec le Seigneur de chaque jour pour un événement d'église. On est en train de substituer, on est en train de dire, moi, ce temps-là tout seul avec le Seigneur, j'en ai pas tant besoin parce que j'ai mon temps le dimanche matin. C'est comme si on substitue la vie de chaque jour avec Christ pour un événement. Puis j'aimerais vous dire que l'Église, ce n'est pas un événement. Pas d'amen, c'est correct. Il va falloir que je leur dise la semaine prochaine, ou je sais pas quoi, je vais faire une capsule peut-être pour que ça rentre là. L'Église, ce n'est pas un événement. L'Église, c'est une rencontre avec le Seigneur, une rencontre les uns les autres. Et le Jésus et moi, c'est quoi? C'est une rencontre avec le Seigneur à l'endroit où je me trouve, point. À l'endroit où je me trouve. Si tu es chez toi, Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, « Quand tu pries, ferme la porte. Prie ton Père dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Si tu es chez toi, trouve-toi un lieu tranquille. Si tu es comme Paul et Silas en prison, ben prie et loue pendant que tu es en prison. Si tu es comme Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, et que tu es capable d'être trois fois chez toi pour faire la prière trois fois comme lui le faisait avec les battants de fenêtres ouvertes, ben fais-le là. Les premiers disciples, on voit que dès le départ de cette église primitive, ou de cette première église-là, ils se rassemblaient chaque jour au temple, ils se rassemblaient dans les maisons et ils étaient chez eux aussi. Donc, il y avait des temps qui étaient parfois en petits groupes, parfois individuels, parfois avec un plus grand groupe, et ils célébraient, ils vivaient leur vie, leur foi, à l'endroit où est-ce qu'ils étaient. Je vous donne un autre exemple, l'apôtre Jean. Vous savez qu'il était en exil sur l'île, sur une île? Patmos, oui? Il est en exil à cause qu'il a été persécuté pour sa foi. Il était dans un temps avec le Seigneur et qu'est-ce qui est en train de se passer? L'Apocalypse se déroule devant lui. Et il y a cette vision-là et c'est dans un temps personnel, à l'endroit où il était, qui vivait sa vie au quotidien avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur lui révèle l'Apocalypse selon Jean. Acte 2 va dire la chose suivante. Chaque jour, répétez après moi, chaque jour, avec persévérance. Ben, OK, lisez-le. OK, on y va. Pas besoin de répéter. On lit tout ensemble, OK? Chaque jour. Tout le monde n'a pas fini en même temps. je l'avais vu avant. Mais non, mais c'est bon, on lit ensemble, puis ça n'a pas besoin d'être coordonné au temps près. C'est bien, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient, ils vivaient leur vie, ils vivaient leur foi. J'aime l'expression « chaque jour », vraiment. J'aime cette expression-là. Vous savez, je pense que d'avoir une saine perspective de ce qu'est l'Église peut nous permettre de passer du temps avec lui à chaque semaine, à chaque jour, pendant la semaine. Puis là, vous dites, « Ah, là, j'ai manqué de journée la semaine dernière. Est-ce que tu peux me pardonner, pasteur? » Non, non, sérieux, là, on n'est pas là. On n'est pas dans un légalisme. On est dans l'idée de vivre notre foi à chaque jour parce qu'on aime Jésus, parce que Jésus nous aime, parce qu'on est attaché à lui. Vous comprenez? Ce n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. Mais je pense que cette idée-là d'avoir une perspective juste de ce qu'est l'Église, ça peut nous aider justement à éviter de substituer notre relation personnelle, le Jésus et moi, avec le Jésus et nous. Alors, j'ai réfléchi à ça cette semaine, puis j'ai essayé de voir quelles images pouvaient bien représenter l'Église. Et j'en ai quelques-unes pour vous. On va les avoir à l'écran. OK, quelques images. Il y a certains qui voient l'Église comme un hôpital spirituel. Alors, le but de l'Église, si on la voit comme un hôpital spirituel, c'est de prendre soin de tous ceux qui s'y trouvent. Ça va? On continue. Il y en a qui voient l'Église comme un avant-poste missionnaire, c'est-à-dire que le but, c'est d'envoyer dans la mission chaque personne, comme un genre de lieu de transit missionnaire. Ça va? Troisième lieu, un lieu d'évangélisation, c'est-à-dire que l'Église existe pour qu'une personne de plus accepte le Seigneur autant qu'il y en aura. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas des images fausses là, que je vous donne. Là, okay? Il y en a d'autres qui voient l'Église comme un temple. Et le temple, le but d'un temple, c'est que tous rendent un culte au Seigneur. Il y en a qui voient l'Église comme une épouse, hein, cette image-là de l'épouse de Christ qui se prépare à son retour. Et en fait, si on voit l'Église comme une épouse qui se prépare, bien, ce qu'on est en train de voir, c'est l'importance que chacun se purifie lui-même et vive dans l'amour pour être prêt. Ça, c'est l'image de l'épouse. Il y en a qui voient l'Église comme un vignoble. Et le but de l'Église en tant que vignoble, c'est que chacun porte des fruits durables, des fruits de l'esprit durables, qui vont demeurer jusqu'à son retour. Il y en a qui voient l'Église comme une ambassade. Une ambassade, c'est quoi le but d'une ambassade? Le but est que l'Église représente bien le roi et montre sa gloire. Il y en a qui voient l'Église comme une université. Une université où le but, c'est de former chacun dans la compréhension de la parole, l'idée du disciple, là, de former des gens à travers la connaissance et l'approfondissement des Écritures. Il y en a qui voient l'Église comme un édifice, c'est-à-dire pas juste le bâtiment, mais comme un édifice. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va utiliser cette image-là. Okay? Et le but, c'est de bâtir un lieu sûr dans lequel tous vont grandir, pierre sur pierre. On bâtit une pierre sur l'autre, on est des pierres vivantes. D'autres vont voir l'Église comme une caserne militaire. Le but d'une caserne militaire, c'est de former des soldats dans le combat spirituel. Et, dernière image, il pourrait y en avoir d'autres, mais il y a l'image de la famille. Où est-ce que le but de l'Église, c'est que tous soient en lien les uns les autres et solidaires les uns avec les autres. Un peu comme si on continuait le passage dans Acte 2 que vous avez lu tous en cœur. Ça veut dire après ça qu'ils vendaient leurs biens pour prendre soin les uns les autres. Tu sais, cette idée-là d'être solidaires les uns avec les autres. Et selon vos dons, selon vos expériences de vie, il y a probablement un, deux ou trois de ces images-là qui vous parlent. Puis peut-être d'autres qui vous parlent moins. Mais à quelque part, on peut voir toutes ces choses-là comme des images pour moi. Ah, je vais venir à l'Église, je vais être guéri de mes maladies, je vais aller à l'hôpital, je vais pouvoir offrir un culte, je vais pouvoir être pur, je vais pouvoir porter des fruits, je vais pouvoir être en mission. J'ai déjà accepté le Seigneur, fait qu'on oublie cela, on oublie le lieu d'évangélisation. Je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir... Je vais. Et c'est là qu'on se trompe sur, non pas l'image, l'image est bonne, mais si on est dans le Jésus et nous, c'est beaucoup plus, ben, je vais être une source de guérison pour mon voisin et pour moi-même. Vous comprenez l'image de l'hôpital? Même chose, le temple, ce n'est pas juste moi qui offre un culte. Je vais être en mesure, moi aussi, d'encourager les autres à rendre un culte au Seigneur. Vous comprenez que ce n'est pas juste par rapport à moi, mais c'est par rapport à nous, nous. Et à quelque part, ces images-là sont extraordinaires dans le cadre de l'Église, mais elles sont tellement partielles si on les voit juste le dimanche. C'est comme de dire au Seigneur, « Hey, là, moi, je vis sept jours là, dans ma semaine, là, mais là, je veux que mon cœur soit guéri entre 9h30 et 11h le dimanche matin. » Non, mais le rôle de l'Église, c'est pas juste ici, là. C'est aussi à la maison, à chaque jour. À tous les endroits où est-ce qu'on pourrait être, l'idée de demeurer pur là, ou de développer notre pureté comme épouse de Christ, ça ne se fait pas juste le dimanche parce que le pasteur va condamner un péché de la plateforme. Ça se fait dans notre lieu secret. Seigneur, purifie mon cœur parce que je l'ai encore échappé. Parce que j'ai encore échoué. J'ai fait ce qui te déplaisait, mais Seigneur, je confesse mon péché, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, pardonne-moi. S'il faut attendre le dimanche, c'est long. J'en mets un peu, hein? Vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais c'est dans la continuité. Et c'est ça ce que je veux amener comme pensée ou comme point principal, c'est la célébration du dimanche est une continuité de notre vie avec le Seigneur. C'est un continuum, c'est pas juste un rendez-vous dans notre agenda, puis après ça, ben, on verra bien ce qui se passe. Vous savez, une des choses que... comme pasteur, je peux essayer de vous encourager dans les Écritures. On peut approfondir les textes. On peut essayer de trouver des perles cachées. Je peux prier avec toute l'énergie et toute la foi qui est en moi. Il y a beaucoup de choses que je peux essayer de vous transmettre et que j'essaie de faire aussi imparfaitement que ce soit. Mais il y a quelque chose que je ne serai jamais capable de faire. Il y a quelque chose qui est impossible pour moi de vous transmettre. La chose qui est impossible pour moi de vous transmettre, c'est mon historique avec Jésus. C'est mes temps seul à seul avec Jésus. Je ne peux pas vous transmettre ça. Je peux vous encourager à les prendre. Je peux vous encourager à développer la prière. Mais je ne peux pas vous transmettre mes cœurs à cœur avec Jésus. Je ne peux pas vous transmettre ces moments-là où est-ce que je suis avec le Seigneur en enlevant mes mauvaises œuvres puis que je suis vraiment béni. Ou quand je suis dans ma voiture puis que j'écoute un texte de la Bible puis je suis béni. Ou d'autres moments où est-ce que je suis juste en prière puis je prie pour vous puis pour d'autres. Je ne pourrai jamais vous transmettre ça. Parce que ça, c'est ma relation, Jésus et moi. C'est dans mon lieu secret. C'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit. Et parfois, il y a des gens qui, « Ah, pasteur, je veux que tu pries pour moi, puis je veux l'onction, whatever. » Puis je suis comme, « Ça m'énerve. » Pas que je ne veux pas prier pour vous, mais à quelque part, votre onction se développe dans le lieu secret. C'est là que ça se passe. Bon, j'avais pas prévu de dire ça, mais je l'ai dit. OK. On peut enseigner, on peut reprendre, on peut exhorter, on peut consoler, on peut faire part de toutes sortes de découvertes. Et tous les prédicateurs qui sont ici peuvent tous faire ça, et ils le font très bien. Gloire à Dieu pour ça. Mais on ne peut pas transmettre notre historique de temps avec le Seigneur. Et c'est ça que je veux nous encourager. Nous encourager à prendre ces temps-là. Et à quelque part, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher, je voudrais vous poser la question, comment va ton Jésus et nous? Comment ça se passe, toi, cette idée-là de la continuité, d'être avec les croyants les uns les autres le dimanche? Peut-être que tu es ici et tu fais comme, « Ouais, mais là, je suis dans une foule, mais je me sens tellement seul. Ah, c'est tellement plus le fun juste seul avec Jésus, pas besoin de l'Église. » C'est pas ce que je suis en train de vous suggérer ce matin. Mais comment va ton Jésus et nous? Comment va ces temps où est-ce que c'est pas juste par rapport à moi, mais c'est par rapport à nous? D'ailleurs, peut-être qu'une des choses qu'on entend, puis là, je m'en vais en vacances tantôt, fait que je me gâte, OK? Une des choses qu'on entend, là, si vous voulez dire quelque chose, de ne pas dire à votre pasteur, dites-lui pas la chose suivante. « Oh, pasteur, oh, ici, on n'est pas nourri. S'il vous plaît, là, avalez-le, digérez-le, mettez-le dans la toilette, puis flushez-le après, s'il vous plaît. » Okay? Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est la chose suivante. C'est que pendant 7 jours de la semaine, vous n'avez rien lu de la parole. Vous n'avez pas creusé pour vous-même, pour trouver les trésors. Mais que tout le fardeau de votre approfondissement de la parole repose sur moi qui va vous parler pendant 30 minutes. S'il vous plaît. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui? Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des messages qui vont nous parler, puis c'est extraordinaire. Mais et si le message de ce matin était pour ton voisin, puis que ça ne s'adresse pas à toi, est-ce que tu vas pleurer ta vie en disant « Le Seigneur n'était pas ici, ça ne m'a pas parlé » ou tu vas te réjouir parce que ici, ce n'est pas Jésus et moi, c'est Jésus et nous. Alors, s'il y a une personne qui accepte le Seigneur, même si ça ne t'a pas parlé ou même si tu savais déjà ça, est-ce qu'on peut se réjouir avec le ciel qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que tout est une question de perspective. Si toute votre vie est basée sur la pertinence, sur l'enthousiasme de votre pasteur, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez déménager à Coudjouac? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être à Coudjouac? Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura pas de drum dans l'église? Qu'est-ce qui va se passer quand finalement... La personne qui va être devant comme pasteur, plutôt qu'avoir 15 ans d'expérience, va avoir 6 mois d'expérience. Est-ce que vous allez faire « Ah, ça ne vaut plus la peine de suivre Jésus. » Et si c'est un stagiaire qui joue de la guitare puis que ça sonne pas bien, t'es-tu capable de louer Jésus? Merci, Christian. Je savais que t'allais... Ouais, c'est bon. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais je vous raconte ça parce que ça vaut la peine. On s'en va, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on s'en va dans une petite église, dans un village reculé. Puis honnêtement, les deux musiciens qui étaient supposés être là sont pas là. Puis c'est horrible, horrible. Les oreilles buzzent, OK? Le gars qui prend le micro pour chanter, je vous dis, c'était horrible. Horrible, horrible. Et rien contre la personne, je sais pas son nom. Et là, on était comme dans le pré-service. C'était comme un genre de temps de louange avant pour... horrible, je vous le dis. J'ai joué de la guitare, j'étais pas capable. Mais je voyais le gars qui était première rangée. Il y avait un gars qui était de même, là, puis il pleurait sa vie, là. Il était tellement touché, puis, puis là, il priait, intercédait comme un malade. Puis moi, j'étais comme... Un Nord-Américain d'ici, il sauve en courant. Il est pas capable de louer Jésus parce que ça bosse dans ses oreilles. La réponse... Et quand j'ai vu ça, c'est probablement une image qui va me marquer puis qui va me rester toute ma vie. Et moi, je me pose la question, si la louange était aussi mauvaise, est-ce que tu louerais Jésus? Est-ce que je louerais Jésus? Est-ce que ma foi dépend de la performance des autres ou ma foi dépend de mon chaque jour avec Jésus? Parce que si on suit ces autres, on est en train de se fier sur leur « Hey, sont-tu bons? Sont-tu pas bons? Sont-tu ci? Sont-tu pas ci? » Moi, j'espère que si vous déménagez, que ce soit à Gatineau, hein? Non, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont annoncé qu'ils déménageaient à Gatineau. C'est qu'on a fait un échange. Mais j'espère que là-bas, vous allez trouver un lieu, vous allez être capable d'adorer Jésus, mais que dans votre maison, vous allez adorer Jésus à chaque jour. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Parce que cette relation-là avec Jésus, c'est pas juste le Jésus et nous le dimanche. C'est le Jésus et moi à chaque jour. À chaque endroit où je me trouve. Et je finis avec ce verset. Jésus va prendre une image d'un vignoble. Il va parler du tronc qui s'appelle le cep. Et les sarments, c'est comme les petites branches là, sur lesquelles il peut y avoir des raisins. Jésus va dire, « Je suis le cep, c'est moi qui ai le tronc, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il y a cet appel-là à demeurer en Jésus, à demeurer connecté en Jésus, parce que lui, il est là tous les jours. Maintenant, est-ce que vous vous présentez à tous les jours? Ça, c'est la question que chacun d'entre nous, on a à répondre. Mais que Dieu nous aide à passer du temps avec lui. À passer du temps avec lui. Seigneur Jésus, on veut que tu sois le centre. On veut que tu sois le centre de nos vies. À chaque jour, on veut être avec toi. À chaque jour, on veut persévérer dans ta parole, dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans contemplation, confession, repentance. Seigneur, on veut être avec toi à chaque jour. Tu nous as promis que tu allais être avec nous à chaque jour jusqu'à la fin. Mais Seigneur, on veut te dire que nous autres aussi, on veut être avec toi chaque jour jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre mort nous réunisse au ciel avec toi. Alors Seigneur éternel, je veux te prier pour des hommes et des femmes qui passent du temps avec toi, qui développe le Jésus et moi, Jésus toujours en premier, et qui grandissent dans cette relation précieuse que tu nous as acquise à la croix. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié aujourd'hui, mais bien plus demain. Mardi matin, mercredi, jeudi en fin d'après-midi, vendredi, samedi. Seigneur, merci de nous accompagner à chaque jour. C'est en ton nom, Seigneur, qu'on le prie. Amen.